Bonsoir à toutes et à tous. Gérard Collomb annonce un futur plan migrant et de nouvelles mesures pour l'asile. Il s'agit notamment de faire diminuer les délais d'instruction pour les demandeurs. Le ministre de l'Intérieur était en déplacement à Calais aujourd'hui. Il y a tenu des propos très fermes en matière d'immigration et a réaffirmé qu'il n'y aurait pas de nouveaux centres d'accueil dans le Calaisis pour éviter, je cite, « tout appel d'air ». Déjà 500 000 signatures pour la pétition s'opposant à l'élargissement du panel des vaccins obligatoires. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, voudrait faire passer de 3 à 11 le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants, ce qui peut s'expliquer si on prend en compte les spécificités françaises. C'est ce que nous dira dans ce journal Emmanuel Grimpel, le chef du service de pédiatrie générale à l'hôpital Trousseau à Paris. L'enquête de cette édition à 22h10 avec le service investigation de Radio France et de nouvelles révélations dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Sylvain Tronchet a recueilli un nouveau témoignage qui fragilise une nouvelle fois la défense de François Bayrou. Pas de nouveau centre d'accueil pour les migrants à Calais. La décision a été prise et annoncée aujourd'hui par Gérard Collomb en déplacement dans la région. Le ministre de l'Intérieur estime que ce genre de centre est susceptible de provoquer des appels d'air en matière d'immigration. Voilà une réponse assez directe aux défenseurs des droits. Hier, Jacques Toubon avait instamment demandé l'ouverture d'un centre de ce type dans la région. Il avait demandé également la réouverture d'un guichet permettant aux migrants de demander l'asile. Fin de recevoir donc de Gérard Collomb, qui du même coup se montre assez éloigné des vues, ou du moins des discours, d'Emmanuel Macron. Au cours de cette même journée, en effet, le président de la République a demandé à Bruxelles plus d'humanité à l'égard des migrants. Christine Monclat.
À Bruxelles, l'humanité, à Calais, la fermeté, le sécuritaire. Gérard Collomb refuse l'ouverture d'une structure d'accueil pour éviter, je cite, tout point de fixation, tout appel d'air, et il envoie des renforts policiers qui seront bientôt aussi nombreux que les 5 à 600 personnes en errance sur Calais. Ce faisant, le ministre de l'Intérieur adresse aussi une fin de non-recevoir au défenseur des droits Jacques Toubon, qui vient de s'exprimer crûment sur les manquements de l'État envers ses migrants. Les autorités les traquent, écrit Jacques Toubon, qui dénonce l'entrave à la distribution vitale d'eau et de nourriture. Certes, Gérard Collomb hérite d'une situation complexe depuis le démantèlement de la jungle en octobre dernier, mais cette première visite ministérielle a tout de même refroidi les bénévoles locaux. Alors peut-être pour nuancer la tonalité de sa visite, le ministre est aussi arrivé avec un futur plan migrants et asile dans ses bagages. Conformément à une promesse de campagne du candidat Macron, il s'agirait de réduire les délais d'instruction des demandes d'asile de 9 mois actuellement à 6 mois. Instruction et recours compris, avec expulsion effective des déboutés, ce que ni la droite ni la gauche n'ont jamais réussi à appliquer. Il faut dire que concrètement, avec environ 65% des demandes d'asile rejetées en France, cela ferait des dizaines de milliers d'expulsions par an, 58 000 par exemple pour l'année 2016. Pas sûr qu'un gouvernement, même ni de gauche ni de droite, puisse l'assumer.
Christine Monclat, premier conseil européen aujourd'hui pour Emmanuel Macron et premier revers pour le président français qui a échoué à convaincre ses partenaires. Il voulait faire plus pour protéger les secteurs économiques stratégiques européens, notamment face aux pressions chinoises. Il imaginait qu'il fallait pour cela laisser plus de pouvoir à Bruxelles pour contrôler les acquisitions étrangères au sein de l'Union européenne. Les pays du Sud notamment ont freiné pour ne pas prendre le risque de voir baisser les investissements étrangers chez eux. Des décisions difficiles seront à prendre en matière sociale et économique dans les mois qui viennent. C'est Bruno Le Maire qui prévient dans une interview à paraître demain dans les colonnes du Figaro. Le ministre de l'économie estime que l'objectif de faire repasser le déficit public français sous la barre des 3% du PIB exigera des décisions difficiles. Il cite notamment la fameuse hausse prévue de 1,7 point de CSG, hausse qu'il dit assumée sans état d'âme. Bruno Le Maire qui annonce également en matière fiscale que la France et l'Allemagne veulent parvenir à une convergence rapide de l'impôt sur les sociétés. Dans le gouvernement, Philippe II, toujours pas de secrétariat d'État chargé de l'aide aux victimes. Dans le quinquennat Hollande, c'est Juliette Méadel qui occupait le poste, mais celui-ci a bel et bien disparu. Il n'existe plus, au grand dam des associations de victimes ou de familles de victimes. Écoutez Sophie Parra, 33 ans, qui a été blessée le soir du 13 novembre 2015. Elle a publié une lettre ouverte dans laquelle elle déplore le manque de considération du gouvernement envers les victimes.
On a l'impression que c'est un gros retour en arrière et qu'on nous tourne le dos, en fait. Je pensais qu'il allait au moins continuer dans la lignée de François Hollande sur ce sujet-là, parce que c'est quand même un sujet important et c'est un sujet d'actualité. Et on avait un secrétariat d'État qui était là pour nous aider, qui nous a vraiment facilité les choses, qui du coup faisait vraiment le relais entre nos demandes, toutes les problématiques qu'on pouvait avoir et les différents ministères, pour nous éviter justement d'avoir à nous battre en plus avec l'administration et ensuite qu'ils puissent tout centraliser. Pour nous, c'est un vrai soulagement. On a vécu quelque chose d'extrêmement dur et quasiment presque 2 ans après, c'est toujours, pour nous, c'est toujours vivace. Hein. Beaucoup se sont retrouvés à devoir trouver un avocat tout seul, à devoir gérer des problématiques qu'on savait même pas qu'elles existaient. Et justement, ce secrétariat d'État était vraiment la bonne décision qui avait été prise. Et il faut que ce secrétariat puisse perdurer. Et c'est vraiment ça qui nous tient à cœur et c'est vraiment ça qui est essentiel pour nous à l'heure actuelle.
Sophie Parajoint au téléphone par Marie Justet. Y aura-t-il bientôt en France 11 vaccins obligatoires pour les enfants? 3 le sont déjà contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. 8 autres contre la coqueluche, la rougeole ou la rubéole ne sont pour l'instant que recommandés, mais la nouvelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pourrait les rendre temporairement obligatoires. L'idée suscite une levée de boucliers sur la toile avec une pétition qui a réuni plus de 500 000 signatures depuis une semaine. Emmanuel Grimpel, le chef du service de pédiatrie générale à l'hôpital Trousseau à Paris, estime toutefois que la ministre s'adapte à la situation française, une situation unique en Europe.
En théorie, une vaccination pourrait ne pas être obligatoire dès lors qu'elle est bien acceptée par la population. Et c'est le cas dans la majorité, c'est-à-dire 2/3, des pays de la communauté européenne, notamment essentiellement les pays du Nord, les pays scandinaves, l'Angleterre, pour lesquels la vaccination n'est pas obligatoire, mais simplement fait partie du calendrier vaccinal. Et la population est remarquablement bien vaccinée dans ces pays avec ce qu'on appelle une couverture vaccinale, c'est-à-dire un pourcentage très élevé de jeunes nourrissons qui sont vaccinés. La démarche de la ministre, en fait, s'adapte à la situation française, qui est tout à fait exceptionnelle en Europe, puisque la France est le pays où il y a un tel sentiment de crainte ou de réticence vis-à-vis de la vaccination. C'est totalement unique. Et cela représente une menace dans la mesure où le risque est que une partie importante de la population ne soit pas vaccinée parce que les parents ont peur de la vaccination. Et à ce moment-là, nous risquons de voir réapparaître des maladies et augmenter, bien entendu, le nombre de cas, de leurs complications, puisque ce sont toutes des maladies sévères et parfois même les décès.
Des propos recueillis par Maïwenn Bordron. Le président directeur général de Radio France, renvoyé en correctionnel, Mathieu Gallet sera jugé en novembre prochain, prévenu de favoritisme. Une affaire remontant à ses années de directeur de l'INA, années pendant lesquelles il aurait passé des marchés publics sans mise en concurrence, notamment avec des sociétés de conseil en communication, des marchés dont le montant total s'élève à 428 000 euros hors taxes. Une série d'attentats aujourd'hui au Pakistan a fait au moins 50 morts et 170 blessés dans 3 villes du pays. Une double attaque a notamment touché le marché de Parachinar, une ville à la frontière afghane, marché bondé à l'approche des fêtes de l'Aïd, marquant la fin du mois de Ramadan. Les suites à Londres de l'incendie de la Grenfell Tower la semaine dernière, il avait causé la mort d'au moins 79 personnes et il était bien dû à la défaillance d'un réfrigérateur. C'est ce qu'indique ce soir la police britannique, ce qui n'exclut pas, toujours d'après les autorités britanniques, des poursuites pour homicide. L'enquête se poursuit et ce soir, toujours à Londres, on apprend que 5 tours de la ville sont en cours d'évacuation, une évacuation demandée pour risque d'incendie. Le lancement aujourd'hui à Madrid en Espagne des festivités de la World Gay Pride, le plus grand rassemblement au monde des défenseurs de la cause homosexuelle. Les festivités culmineront avec un rassemblement gigantesque dans la capitale espagnole. Ce sera le week-end prochain. Sur place, Marie-Hélène Ballestero.
Qui que vous aimiez, Madrid vous aime. C'est le slogan de bienvenue choisi pour la World Pride qui démarre dans la capitale espagnole et qui va se prolonger jusqu'au 2 juillet. C'est l'événement mondial le plus important de la communauté LGBT et Madrid l'accueille les bras ouverts. Au programme, 10 jours de concerts, expositions, compétitions sportives, spectacles. Madrid souhaite faire les choses en grand, briller de mille feux et montrer à quel point la ville est ouverte à la diversité. À titre d'exemple, afin de se mettre à l'heure de la World Pride, la mairie de Madrid a installé des feux piétons gays et lesbiens dans le centre de la capitale, où l'on peut voir deux hommes ou deux femmes se tenir la main. Parmi les activités à ne pas rater, la légendaire course de talons aiguilles dans le quartier de Chueca, un des points centraux de la World Pride. Une conférence mondiale sur les droits de l'homme aura lieu entre le 26 et 28 juillet à l'Université Autonoma de Madrid, sans oublier l'événement central, la Pride Parade, qui se déroulera le 1er juillet avec les chars traditionnels. Cette grande manifestation de la fierté devrait réunir près de 2 millions de personnes venues du monde entier pour défiler entre Atocha et la Plaza Colón. La World Pride devrait aussi se traduire par d'importantes retombées économiques pour la capitale espagnole. Les commerçants madrilènes espèrent un impact de près de 300 millions d'euros, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie et du commerce. Quant aux mesures de sécurité, un important dispositif a été déployé. Des milliers de policiers nationaux et municipaux vont quadriller la ville pendant ces 10 jours.
Il est 22h11 sur France Culture. Voici l'enquête de cette édition. Elle est signée Sylvain Tranché. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Benoît.
De la cellule d'investigation de Radio France, vous avez recueilli un nouveau témoignage accablant dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Un témoignage qui contredit la défense du parti de François Bayrou dans cette affaire. Il affirme qu'il y avait bien, ce témoignage que vous avez recueilli Sylvain, un système d'emploi fictif au bénéfice du MoDem.
Et cet homme était bien placé pour le voir parce qu'il était assistant parlementaire d'un député européen MoDem entre 2004 et 2009. Il nous a demandé de ne pas donner son nom, mais il a accepté de nous parler et surtout, il affirme qu'il se tient à disposition de la justice et des enquêteurs, prêt à leur dire que si lui a vraiment travaillé pour son eurodéputé, ce n'était pas le cas de tous les assistants des élus MoDem. Écoutez-le.
Ce que j'ai pu vivre, c'est que les parlementaires à plusieurs finançaient des temps partiels d'assistants parlementaires qui ne fournissaient aucun travail pour le député. Les députés qui ont été contraints de jouer ce jeu se rendaient compte au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois de législature, qui l'assistant ne fournissait pas de travail. Et les parlementaires, conscients du risque juridique, réclamaient avec beaucoup de difficultés que l'assistant, de temps en temps, se manifeste en transmettant une note sommaire sur un sujet ou une petite revue de presse qui permettrait d'apporter une preuve qu'un travail a pu être effectué au cas où il y aurait des contrôles.
Selon lui, ces pratiques étaient aussi vécues parfois comme une véritable bombe à retardement. Cet homme nous a raconté que certains députés européens du MoDem s'inquiétaient, se plaignaient de ne pas pouvoir disposer d'assistants qui étaient censés être à leur service. Lui-même a été prié par son député d'aller réclamer des preuves de travail à l'un de ses collègues qu'il n'avait jamais croisé au Parlement. Les élus avaient clairement conscience d'être en dehors des clous, mais ils ne pouvaient pas refuser, nous a-t-il expliqué, sous peine de ne pas être investis aux prochaines élections.
Et alors que faisaient-ils ces assistants s'ils ne travaillaient pas pour le Parlement européen, Sylvain ?
Eh bien, ils travaillaient au siège de l'UDF, puis du MoDem à sa création en 2007. Ce témoin nous a notamment raconté le cas d'un ancien responsable des jeunes du parti, de la secrétaire particulière de François Bayrou, qui cumulait déjà à cette époque deux contrats de travail. Ce témoignage d'un homme qui a aujourd'hui quitté la sphère politique vient mettre à mal les dénégations du parti centriste.
Les budgets des assistants parlementaires servaient à financer le fonctionnement du parti politique, au moins en partie. Les temps partiels qui étaient financés par l'Europe servaient à servir les ambitions de François Bayrou.
Quand François Bayrou dit il n'y a jamais eu d'emploi fictif au MoDem.
Il s'agissait d'emplois fictifs ou de temps partiel fictif à l'encontre des financements européens, oui.
Donc François Bayrou ment ?
Oui.
Jusqu'ici, notre enquête nous avait permis d'identifier une dizaine de salariés du MoDem qui étaient également payés pour partie par le Parlement européen, principalement sur la période 2009-2012. Ce que ce témoin affirme, c'est que le système préexistait sur la mandature européenne précédente entre 2004 et 2009. Et le MoDem n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. C'est ce que nous a raconté le député Nouveau Centre, Charles de Courson. Pour cet élu, qui est tout de même un ancien conseiller de la Cour des comptes, il est temps que les masques tombent.
À quoi ça sert de jouer les personnes qui découvrent rien du tout. Tout le monde le sait. dans le MoDem, ils faisaient un petit contrat à temps très très partiel, et le reste, c'était enfin payé par le Parlement européen dans le cadre d'assistants parlementaires. Il y a d'autres courants politiques concernés, les Républicains, peut-être même nos collègues socialistes. C'est une pratique qui ne concerne pas d'ailleurs que les assistants parlementaires des députés européens, qui peut concerner aussi les assistants parlementaires des députés nationaux.
Hier, les enquêteurs de l'Office anticorruption ont recueilli le témoignage de l'ancien responsable web du MoDem, cet ancien assistant de Jean-Luc Benamias, qui affirme ne jamais avoir travaillé pour l'ex-député européen. Il était le seul à l'avoir dit publiquement. Jusque-là, ce n'est plus le cas dorénavant, puisque ce témoin que vous avez entendu sera probablement auditionné prochainement.
Merci Sylvain Tronchet. Votre enquête signée avec Élodie Guéguin est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Les températures vont continuer à baisser de manière générale, avec quelques exceptions en Rhône-Alpes notamment, où la canicule est toujours d'actualité, au moins jusqu'à demain. Les températures minimales au lever du jour seront comprises en Rhône-Alpes entre 20 et 24 degrés. Partout, la journée de dimanche marquera la fin de cet épisode caniculaire. Le temps dans le courant de la semaine prochaine va se dégrader et il pleuvra.